Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Aujourd'hui, je vais vous parler de Manfred Mann, qui était un groupe de rock anglais formé à Londres et qui a duré de 1962 à 1969. Le groupe a été nommé d'après leur claviériste Manfred Mann, qui a ensuite dirigé le groupe à succès durant les années 70, devenu Manfred Mann Chapter 3, un groupe de jazz rock expérimental qui deviendra le Manfred Mann's Earth Band. Mais revenons-en à Manfred Mann, qui figurait régulièrement dans les charts britanniques dans les années 60, notamment avec leurs singles, dont les plus connus en France sont « Do What Diddy Diddy »,« Aha Said the Clown » et « Mighty Queen ». Il y a eu aussi des succès avec des hits comme « 5-4-3-2-1 » en bon français, paru en 1964, et qui fut le thème musical du générique de l'émission de musique pop restée fameuse « Ready Steady Go ». Cela pourrait étonner aujourd'hui, mais Manfred Mann fut un des groupes anglais parmi les plus performants de l'invasion britannique des charts américains. Ils furent même les premiers à atteindre les sommets du Billboard Hot 100 américain. Le groupe a eu deux chanteurs principaux, Paul Jones de 1962 à 1966 et Mike Dabo de 1966 à 1969. Sa musique reposait beaucoup sur les claviers de Manfred Mann, leur leader. Le groupe aimait bien aussi utiliser différents instruments comme le vibraphone ou la flûte, qui était assez étonnant à l'époque. Et puis il y a aussi la présence de musiciens assez célèbres, par exemple multi-instrumentiste Klaus Voormann, qui travaille si souvent avec les Beatles, au plan graphique ou musical, et surtout lors de la carrière solo de chaque Fab Four. Je pense aussi à Jack Bruce, le fabuleux bassiste de Cream avec Clapton et Baker, et qui a tant marqué l'emploi de son instrument dans la musique des années 60 jusqu'à sa disparition en 2014. Mais voici un exemple rapide de leur hit à succès que j'utilise comme premier jingle. Les débuts du groupe remontent à 1962-1963. Sous le nom des Man Egg Blues Brothers, ils se sont formés à Londres autour de Manfred Mann, le claviériste, et le batteur, joueur de vibraphone et aussi pianiste, Mike Hugg. Ils firent partie des musiciens plus ou moins proches de Graham Bond, l'un de ceux qui ont déclenché le British Blues Boom, apportant leur amour partagé du jazz au boom du blues britannique en jouant dans les clubs de Londres. Les deux jeunes musiciens ont complété leur groupe avec Mike Vickers à la guitare, saxophone, alto et flûte, le bassiste Dave Richmond et Paul Jones comme chanteur et harmoniciste. À cette époque, ils avaient changé leur nom en Manfred Mann and the Manfreds. Dès la fin de 1962 et le début de 1963, ils ont rapidement attiré l'attention par leur son distinctif parmi les différents groupes de rock de l'époque, des Beatles aux Rolling Stones. Après avoir changé leur nom en Manfred Mann, à la demande du producteur de leur label, John Burgess, le groupe a signé avec His Master Voice, plus connu en France sur La Voix de son Maître, en mars 1963. Leurs premiers enregistrements sont des instrumentaux de blues. Déjà, ils se démarquent en jouant donc des instruments peu liés au rock, comme le vibraphone ou la flûte. Ils donnent aussi de la place au clavier et à l'harmonica et assez peu à la guitare. L'influence jazz est très présente et c'est leur fierté. Le succès ne viendra qu'à compter de fin 1964. Leur premier album, qui va compter The Five Faces of Manfred Mann, viennent sortir et présentent leur savoir-faire. Par exemple, avec leur version de Smokestack's Lightning, d'Howling Wolf. En revanche, on est loin du chant puissant du loup hurlant de Chicago, car Paul Jones chante plus en nuances et subtilité. C'était Smokestack Lightning, l'éclairage de la cheminée, par Manfred Mann sur OxyWeb Radio. The Five Faces of Manfred Mann est donc leur premier véritable album studio britannique, et le deuxième pour le marché américain. En effet, Manfred Mann a connu d'abord le succès auprès du marché US. Cet album a été publié pour la première fois au Royaume-Uni en septembre 1964 par His Master's Voice, la voix de son maître, je le rappelle. Fin octobre, début novembre, l'album est sorti au Canada chez Capitol Records. La liste des pistes canadiennes était presque la même que sur la version britannique de l'album, sauf qu'elle incluait le hit Do What Did It au lieu de I've Got My Mojo Working. Le disque a été appelé l'une des grandes invasions britanniques basées sur les albums blues. C'est un disque chaud et rock qui bénéficie également d'un jeu virtuose. Les chansons de la version originale de Five Faces of Manfred Mann sont plutôt rhythm and blues, y compris les reprises du groupe de Smokestack Lightning de Howlin' Wolf, Got My Mojo Working de Muddy Waters et Bring It to Jerome de Bo Diddley. ainsi que quelques-unes des compositions jazzy du groupe. Elles sont particulièrement notables dans les sections instrumentales que Manfred Mann placera ainsi régulièrement sur ses albums. En mettant en avant le travail au clavier de Manfred Mann, la flûte et le saxophone de Mike Vickers et les percussions avec vibraphone et batterie par Mike Hugg. Ainsi, ils reprennent la chanson « Sack of Wood » de Cannonball Adderley de l'école du jazz du début des années 60 qui fut influencée par le rhythm and blues. Mais voici leur version de « I'm Your Coochie Coochie Man », le célèbre hit de Muddy Waters. Gypsy woman told my mother just a while before I was born, you got a boy child coming, he's gonna be a son of a gun, he's gonna make pretty women all jump and shout. Je suis ton homme pour l'amour par Manfred Mann sur OxyWeb Radio. Comme beaucoup d'albums de cette époque, le premier album de Manfred Mann résiste mieux au temps 40 ans après sa sortie en 1964. C'est aussi l'un des plus longs albums de son époque avec une durée musicale qui approche les 40 minutes. Et il n'y a pas de notes perdues ou de chansons prolongées inutilement parmi les 14 pistes. Ainsi, leur premier succès arrive vraiment en 1964 et 1965. En 1964, le groupe a été invité à fournir un nouveau thème musical pour le programme télévisé de musique pop d'ITV, Ready, Steady, Go. Et ils y ont répondu avec 5-4-3-2-1, toujours en bon français, qui avait l'aide d'une exposition télévisée hebdomadaire, s'est hissée à la 5e place des charts des singles britanniques. Avec ce premier succès arrive aussi la première recomposition du groupe. Le bassiste Dave Richmond a quitté le groupe, même s'il a continué à jouer en session studio avec eux de temps à autre. Il a été remplacé par un ami du chanteur Paul Jones, Tom McGuinness. Ce fut le premier de nombreux changements. Assez vite, pourtant, le groupe a décroché l'or avec notamment Do What Diddy Diddy, une reprise du tube des Exciters, un groupe américain, paru cette année-là. Le titre a atteint le sommet des charts britanniques ainsi qu'au Canada et aux États-Unis. Parmi les chansons à mettre en avant dans cet album, je parlerai de Shalala et Come Tomorrow, deux titres pop. Au titre du Rhythm and Blues, on peut noter l'original Hubba Bubble, un hit britannique que, durant quelques semaines, et quelques bonnes reprises comme Are You Kingpin Groovin notamment. Mais écoutons Do What Diddy Diddy qui fleure bon le Rhythm and Blues.
There she was, just a walking down the street singing
Do what diddy diddy dum diddy do,
tapping her fingers and shuffling her feet singing
Do what diddy diddy dum diddy do.
She looked good,
looked good,
she looked fine,
looked fine,
she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing
Do what diddy.
In my hand, just as natural as can be, singing.
Do what diddy diddy dum diddy do.
We
walk on
to my door,
my door.
We walk on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing
Do what diddy diddy dum diddy do.
Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing
Do what diddy diddy dum diddy do.
Well, I'm hurt,
I'm hurt.
She's mine,
she's mine.
I'm hurt,
she's mine.
Wedding bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. Together, nearly every single day singing
Do what diddy diddy dum diddy do.
Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing
Do what diddy diddy dum diddy do.
Well, I'm hers,
I'm hers.
She's mine,
she's mine.
I'm hers,
she's mine.
Wedding bells are gonna chime. Whoa, oh yeah.
Do what diddy diddy dum diddy do.
We'll
C'était Do What Diddy Diddy par Manfred Mann sur OxyWeb Radio. Man Made est le deuxième album studio britannique et le quatrième album américain de Manfred Mann. Il est sorti en octobre 1965 au Royaume-Uni et en novembre 1965 aux États-Unis. Ce fut le dernier enregistrement du groupe avec les membres originaux Mike Vickers et Paul Jones, ainsi que leur dernier à être enregistré au studio Abbey Road à Londres, avant de passer chez Fontana Records. Entre l'édition britannique et celle parue en Amérique du Nord, quelques titres diffèrent, notamment pour glisser le single à succès Pretty Flamingo que nous venons d'écouter en jingle. Sur cet album, Jack Bruce joue de la basse, il fera partie du groupe entre 1965 et 1966. Rappelons que ce musicien d'origine écossaise, né John Simon Asher Bruce, en mai 1943, fut un membre du Graham Bond Organization, où il rencontra Ginger Baker, puis entra dans le John Mayall and the Bruce Breakers, où il fait la connaissance d'Eric Clapton, et ce fut Cream en 1966. Et la gloire. Il est décédé en 2014 d'une longue maladie. Pour en revenir à Man Made, il proposait plusieurs instrumentaux composés par le groupe et une version de Stormy Monday Blues aux côtés de nouveautés et de ballades pop, dont une reprise de Oh No Not My Baby de Maxine Brown, où on peut ressentir une nouvelle profondeur et plus de sophistication encore dans les arrangements. Mais voici leur version Stormy Monday Blues du pionnier américain de la guitare électrique blues T-Bone Walker. Ce fut un hit en 1948 et c'est ce hit qui a incité B.B. King à prendre la guitare électrique. Stormy Monday Blues, le blues du lundi orageux, est devenu la chanson la plus connue et la plus enregistrée de T-Bone Walker. Je pense à la version de Bobby Plant, mais aussi celle de l'Allman Brothers Band et tant d'autres, dont Manfred Mann, qui reste, elle, assez rhythm and blues.
Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday. Well, but Tuesday's just as bad. Saturday I go out to play. Sunday I go to church. Then I kneel down and pray. I'm gonna pray a little.
C'était Stormy Monday Blues par Manfred Mann sur OxyWeb Radio. Pour parler des membres du groupe, commençons par leurs deux leaders. Manfred Mann, tout d'abord, a tenu les claviers et a chanté de 1962 à 1969. Né Manfred Seps Lubowitz en octobre 1940, il est d'origine sud-africaine, mais de nationalité également anglaise. Il est surtout connu en tant que membre fondateur, évidemment, des groupes Manfred Mann, mais aussi par la suite avec Manfred Mann Chapter 3 et Manfred Mann's Earth Band. Ces deux variantes produiront un jazz rock que Manfred aspirait à jouer très tôt. Il a grandi à Johannesburg, a étudié la musique à l'université de Witwatersrand et fut pianiste de jazz dans quelques clubs de Johannesburg. Fortement opposé au système d'apartheid qui régnait en Afrique du Sud, Manfred s'installe au Royaume-Uni en 1961 et commence à écrire pour Jazz News. En 1962, il rencontre Mike Hugg au Clacton Butlin Hollywood Camp et ensemble ils vont former un groupe de blues jazz appelé les Man Hugg Blues Brothers. Cela a finalement évolué en un groupe de 5 musiciens et ils ont signé un contrat d'enregistrement chez EMI en 1963 sous le label Her Master's Voices. Mike Hugg, lui, est né Michael John Hugg en août 1942 à Gosport dans le Hampshire. Il joue principalement de la batterie, mais aussi du vibraphone, des claviers et est capable de chanter également. Avec Manfred, il a formé donc ce duo d'auteurs-compositeurs qui a fourni l'essentiel des chansons originales du groupe. Son influence est le jazz. Aussi, avec Manfred, il a d'abord privilégié ce jazz avant d'opter vers plus de blues. Mike Hugg regretta toujours les chansons commerciales du groupe, mais il faut bien manger. Voici Since I Don't Have You, depuis que je ne t'ai pas, un titre dans le style du groupe que le duo aurait pu composer. C'était « Since I Don't Have You » par Manfred Mann sur OxyWeb Radio. Le premier chanteur, Paul Jones, est parti. Il est né Paul Bunt en février 1942 à Portsmouth dans le Hampshire. C'est aussi un acteur, un joueur d'harmonica, un chroniqueur radio et un présentateur de télévision anglais. Comme musicien, il est surtout connu en fait pour sa participation à Manfred Mann. Il a quitté le groupe avec qui il a enregistré plusieurs succès dans le top 10 de 1962 à 1966. Et par la suite, il a présenté The Blues Show sur BBC Radio 2 pendant 32 ans. Il a commencé en 1986 et s'est arrêté en 2018. Il connut moins de succès avec sa carrière solo, mais il a eu quand même quelques titres. Au sein de Manfred Mann, ses meilleures compositions furent With God on Your Side et If You Gotta Go Go et surtout Pretty Flamingo, un rhythm and blues produit par John Burgess. Mais parlons désormais de As Is, qui est leur troisième album studio britannique, paru en octobre 1966 chez Fontana Records. Ce fut leur premier à présenter les nouveaux membres, Mike Dabo comme chanteur et Klaus Voormann comme bassiste, flûtiste, mais aussi multi-instrumentiste. Les 12 titres de l'album incluent le premier single de la nouvelle formation, une version de Just Like a Woman de Bob Dylan qui va atteindre le top 10 britannique et une courte version jazz cool de Autumn Leaves, les feuilles d'automne chères à Yves Montand, rappelant le Modern Jazz Quartet avec le vibraphone de Mike Hugg et la contrebasse de leur ancien bassiste Dave Richmond. Cela donne une sonorité étonnante dans les instrumentaux. Le groupe en a fait finalement régulièrement, tout comme des adaptations de chansons de Bob Dylan. Et ça sera le cas donc avec Just Like a Woman, qui parut d'abord dans un EP, c'est-à-dire un disque à 5 chansons, intitulé The One in the Middle, qui sera en fait le disque le plus vendu de Manfred Mann. Mais voici Just Like a Woman. C'était Just Like a Woman, juste comme une femme, par Manfred Mann sur OxyWeb Radio. Oh no, not my baby. Oh no, not my sweet baby. En 1966, le groupe signa chez Fontana Records, où ils seront produits par Shel Talmy. Un autre EP est sorti en décembre, contenant divers instrumentaux. Cela mettait en vedette le membre original Dave Richmond à la contrebasse, mais pas encore Mike Dabo, le nouveau chanteur, ce qui signifie que les sessions dataient en fait du début de 1966. Pour Manfred Mann, 1967 sera une année assez infructueuse dans les charts. Il n'y a pas eu d'album véritable, car Manfred Mann et Mike Hugg exploraient d'autres voies pour leur propre carrière. L'album Up the Junction est la première bande originale de film et le quatrième album studio pour Manfred Mann, composé de chansons écrites par Manfred Mann et Mike Hugg et qui était destiné à la bande-son du film du même nom paru en 1968. L'album, lui, paraîtra en mars 1968.
Avec Mike Dabo, l'orientation pop s'accroît, même si c'est une pop plutôt baroque. On trouve aussi des titres comme As Long As I Have Loving, qui est une ballade soul. Mais on ressent surtout l'orientation future du groupe pour Au-delà de 1969, qui sera plus jazz rock. Sur cet album, le guitariste Tom McGuinness propose une sonorité différente avec sa guitare métallique, son dobro en quelque sorte, qui le fait flirter avec de la ballade folk, un peu façon Birds quelque part. De plus, le groupe se perfectionne dans la technique du studio. Par ailleurs, Klaus Voormann succède désormais à Mike Vickers, aussi bien à la basse qu'aux flûtes. Klaus est né en avril 1938 à Hambourg, c'est un musicien, un graphiste et un producteur. Il jouera avec Manfred Mann de 1966 à 1969. Il reste quand même musicien de session pour d'autres artistes, comme le Your So Vain avec Carly Simon et l'album Transformer de Lou Reed, ainsi que sur de nombreux autres enregistrements d'anciens membres des Beatles et beaucoup d'autres. C'est donc une recrue de choix pour Manfred Mann. Et prêtez attention à la basse sur Up the Junction que voici.
Come on.
C'était Up the Junction, sur la jonction, par Van Friedman, sur OxyWeb Radio. Toujours en 1968, sort en juin Mighty Grave. C'est le cinquième et dernier album studio de Van Friedman. Ce fut le dernier enregistré par le groupe après le changement de direction musicale et de personnel qui était intervenu avec l'album de 1966 As Is. Il a poursuivi la transition du jazz et du blues vers le pop art. Malgré deux singles entrés dans le top 5 ou top 5 britannique, Mighty Queen de Bob Dylan et All Has the Cloud de Tony Hazard, l'album n'a pas été classé et le groupe s'est séparé en 1969. Aux États-Unis et au Canada, l'album est sorti sous le nom de The Mighty Queen et est paru sous le label Mercury Records. Le succès pop continue du groupe avec du matériel d'auteurs-compositeurs établis tels que Bob Dylan et Tony Hazard, a rendu les managers du label réticents à sortir des singles composés par les membres du groupe. Cette réticence prévalait déjà depuis le succès de Do Wa Didi Didi en 1965, même si les premiers tubes du groupe avaient été composés par eux-mêmes. Seuls Mike Hugg et Mike Dabo semblaient capables, à leurs yeux, d'écrire des tubes potentiels. Mais pour les managers de Fontana, c'était un peu limité. Pourtant, l'image pop qui en a résulté n'a pas encouragé les ventes d'albums auprès des fans, que ce soit de la pop baroque ou du hard rock. Ainsi, à l'instar des sorties contemporaines des Kings ou des Zombies, Marty Garvey est devenu un disque de référence dans les années 2000. Il a ensuite été édité en 2003 avec des morceaux bonus. Mais voici Mighty Queen, le puissant Queen, chanson de Bob Dylan. Le sujet traite de l'arrivée d'un Esquimau, Queen, qui change le désespoir en joie, le chaos en repos et attire l'attention des animaux. On a dit que Bob Dylan s'est inspiré du personnage principal du film paru en 1960, The Savage Innocent, un Esquimau joué par Anthony Quinn.
Everybody's gonna jump for joy. Come on without. All the pigeons gonna run to him. Come on without. Gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without.
c'était Mighty King par Manfred Mann sur OxyWeb Radio.
A song of love is a sad song. Alleluia, alleluia.
Michael David Dabo est né en mars 1944. C'est un chanteur et auteur-compositeur dont le principal titre de gloire est sa participation justement à Manfred Mann de 1966 à leur dissolution en 1969. C'est aussi l'auteur de chansons à succès. Avec Manfred Mann, Mike Dabo chante sur 6 hits qui vont atteindre le top 20 dans les charts du Royaume-Uni, dont « As I the Cloud » et « Mighty Queen ». Mike Dabo est né à Betchworth, dans le Surrey. Sa famille appartient à la petite noblesse de West Repting, dans le Cambridgeshire. Il a fait ses études dans des écoles prestigieuses, dans le Kent et à Cambridge. D'abord, il voulut devenir prêtre, mais fut rebuté par tout ce qu'il fallait apprendre. Son ambition d'apporter du réconfort aux gens, en répandant la compréhension dans le monde, fut une perte continuelle d'illusions. Il se tourna alors vers l'économie, également sans succès, et quitta Cambridge avec une impressionnante collection de disques de jazz, mais sans terminer ses études. Ses débuts musicaux furent difficiles. En juillet 1966, après avoir quitté son groupe, A Band of Angels, Mike Dabo a rejoint Manfred Mann. Sa première apparition se passa dans l'album As Is, et son premier succès fut avec Semi-Detached Suburban Mr. James, mais surtout avec Just Like a Woman. Mike encouragea les compromis commerciaux du groupe, ce qui les poussa vers des chansons ironiques comme Aha, ça de clave, Aha, dit le clown, une chanson de Tony Hazard, bien connue pour ses chansons interprétées par les Hollies, mais aussi la chanteuse Lulu ou encore Herman Hermits. Mais voici l'étonnant Aha, c'est The Clown.
Aha, c'est The Clown. Has the king lost his crown? Is the night being tied on romance? Aha, c'est The Clown. Is it bringing you down that you've lost your chance? Feeling low, got to go see a show in town. Jokes, have a smoke, and I laugh at the clown. In a world, see a girl with a smile in her eyes. Never thought I'd be brought right down by her lies. In a trance, watch her dance to the beat of the drums. Faster now, sweating brown, I'm all fingers and thumbs. Wonder why I hit the sky when she blows me a kiss. In a wild run of regretting all this. Ha ha, said the clown. Has the king lost his crown? Is the knight being tied on romance? Ha ha, said the clown. Is it bringing you down that you lost your chance?
C'était Aha, c'est The Clown par Manfred Mann sur OxyWeb Radio. Michael Graham Vickers est né en avril 1940 à Staines-upon-Thames dans le Surrey. Guitariste, flûtiste et saxophoniste avec le groupe de 1962 à 1965, il a grandi en Écosse puis à Southampton. À l'origine, Il jouait de la flûte et du saxophone, mais avec la mode des guitares Heroes, Manfred Mann se devait d'en avoir un mis en avant. Mike Vickers s'est porté volontaire pour ce rôle, bien qu'il ait toujours préféré jouer des cuivres. Son solo de flûte sur des morceaux de blues du groupe préfigure le travail de Ian Anderson avec Jethro Tull 5 ans plus tard. Tom Vickers a été crédité en tant que co-auteur sur les premiers singles à succès comme The Abominable Snowman ou You're For Me. Pour son partenaire de groupe, Tom McGuinness, c'était le plus gentil de tous. Il a pourtant quitté le groupe en 1965 pour jouer dans un autre groupe qui lui ne perça pas. Thomas John Patrick McGuinness, lui, est né en décembre 1941 à Wimbledon, dans le sud de Londres. Il a assuré le rôle de bassiste de 1964 à 1965, puis celui de guitariste lorsque Mike Vickers, en même temps que Paul Jones, ont quitté le groupe. C'est un producteur de disques et de télévision. Il a débuté dans les Roosters avec Eric Clapton, et ça c'était avant les Yardbirds. Il a rejoint ensuite Manfred Mann quand il cherchait à jouer moins jazz et plus blues, ce qu'il assura parfaitement en devenant leur bassiste. Tom McGuinness est remarquable car il utilise une guitare National Steel, une sorte de dobro métallique, dont le son est caractéristique. Par exemple, sur des tubes tels que Pretty Flamingo, on le reconnaît. Après la dissolution de Manfred Mann en 69, il a formé McGuinness Flint, puis a rejoint Paul Jones et Gary Fletcher dans The Blues Band, qui tournait encore en 2016. Parmi les errements musicaux, voici Big Betty, qui paraît un morceau anachronique chez Manfred Mann, mais très intéressant, vu les tendances de l'époque. La rythmique basse-batterie est évidente. Klaus Voormann et Mike Hug s'en donnent à cœur joie. Big Betty, par Manfred Mann sur OxyWeb Radio. Au début, le groupe avait réussi une première fusion jazz, rhythm and blues. Mais par la suite, ils ont rejoint la musique qui pouvait entrer dans les charts. Malheureusement, ils ont eu du mal à surmonter le départ de Paul Jones, qui montrait de nouvelles aspirations de carrière solo en tant que chanteur et d'acteur. Et ce fut pareil avec le départ de Mike Vickers. L'aura de Mike Dabo et le jeu subtil de Tom McGuinness n'ont pas suffi pour insuffler une envie de poursuivre l'aventure du groupe au-delà de 1969. Et on peut regretter que les grands musiciens passés dans le groupe, je pense à Jack Bruce, Klaus Voormann, ne soient pas restés suffisamment longtemps pour aider le groupe à se dépasser et à durer. C'est vrai que la passion de Manfred Mann et de Mike Hug pour le jazz restait trop forte. Il nous reste ces albums dont d'autres ont su tirer profit. En effet, au fond, Genesis, Yes, mais aussi Jethro Tull descendent plus ou moins de ce groupe étonnant. Par la suite, les tentatives de reformer le Manfred Mann originel furent des échecs. La semaine prochaine, je vous parlerai de Tamla Motown et de son sound si particulier, notamment de 1965 à 1969. Mais d'ici là, ben roulez blues!